La Vierge Marie, au fil de l'Évangile, voici un enseignement de l'abbé Jean-Bernard Rayette, délégué épiscopal à la catéchèse, enseignement enregistré lors d'une formation proposée aux catéchistes de notre diocèse le 30 novembre 2021 à Salis de Béarn. La Vierge Marie, au fil de l'Évangile, l'abbé Jean-Bernard Rayette.
Pour débuter donc notre rencontre qui nous permettra, je dis, de découvrir Marie ou peut-être de redécouvrir Marie ou de la découvrir d'une manière nouvelle, donc la mère de Jésus au fil de l'Évangile, parce que c'est toujours l'Évangile à qui nous devons bien sûr revenir sans cesse. Je vais d'abord vous livrer des paroles de deux personnes que vous connaissez je pense plus ou moins, des paroles qui nous interrogent et nous stimulent. Première parole, c'est un prêtre de notre diocèse. Pensez-vous souvent à notre bonne mère du ciel? Vous avez dans le ciel une mère qui vous aime. Y pensez-vous? L'aimez-vous? Aimez Jésus comme l'aimait Marie. Aimez Marie comme l'aimait Jésus. Alors ces paroles, elles viennent du bienheureux Louis-Édouard Sestac. Puis une autre parole d'une jeune fille, une jeune femme, une jeune religieuse de 24 ans, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle, avec toute sa fraîcheur d'âme, elle dit « Marie a eu bien moins de chance que nous, puisqu'elle n'a pas eu de Sainte Vierge à aimer. C'est une telle douceur de plus pour nous et une telle douceur de moins pour elle. » Voilà. Marie n'a pas eu de chance parce qu'elle n'avait pas une Vierge Marie à aimer. Eh bien, nous avons cette chance-là. Et puis, je partageais, Marie, elle est aimée aujourd'hui encore et par des hommes, des femmes de toutes conditions, sous toutes les latitudes. Et là, je vais vous partager le témoignage d'une personne âgée, 86 ans, qui a tourné avec les plus grandes actrices du cinéma, courtisé certaines d'entre elles, épousé l'une ou l'autre, avec qui d'ailleurs il a eu 3 enfants. Bon, à ce sujet, il réglera ses affaires avec le bon Dieu, bien sûr. Et c'est Alain Delon, 86 ans. Et dans une interview, il dit ceci. « J'aime Marie, c'est ma chérie, ma confidente, la femme que j'aime le plus au monde. J'aime tout ce que cette femme a fait. Elle m'apporte un soulagement, une compagnie que je n'ai pas. Elle est toujours là. Je lui parle chez moi, seule, et je lui dis ce que j'ai à lui dire. » Et en 2018, lors d'une émission télévisée qui s'appelle « Thé ou café », eh bien, à la grande surprise de l'animatrice, Delon a sorti de sa poche, de la poche de son pantalon, une statuette, une petite statuette de la Vierge Marie qui ne le quitte jamais. Et il a décrété, en brandissant cette statuette devant la journaliste, « C'est plus qu'une mère, elle m'accompagne partout. » Je trouve que c'est beau. Je vous rappelle ce que vous savez déjà, c'est que le christianisme est une religion. Religion. Ce qui relie. Elle relie notre foi, le ciel et la terre, l'au-delà et l'ici-bas, le temps et l'éternité. Bâti sur une histoire sainte, de la terre au passé, il est une espérance d'une éternité de gloire au ciel vers l'avenir. Et notre foi chrétienne se vit en communion avec tout un passé, et on peut dire que c'est notre première richesse. Nous avons, comme le dit la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, nous avons des pères dans la foi. Nous avons des racines dans l'histoire. Nous sommes les fils et les filles d'un peuple à qui Dieu a parlé, d'une ville en qui chacun est né, comme le dit la lettre aux Galates. La Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. Le christianisme nous relie à Abraham, Isaac, Jacob, nos ancêtres dans la foi. Il nous relie à Moïse, Élie, David, Isaïe, Michée, Sophonie, tous les prophètes et tous les rois de l'Ancien Testament. Il nous relie à tout ce peuple des sages, des humbles, des justes, des priants, que la Bible souvent appelle les Anawim, c'est-à-dire des gens simples, humbles, pauvres, qui ont prié dans l'attente du Messie des siècles durant. Il nous relie aussi à ces figures charnières entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Pensez à Zacharie et Élisabeth, Siméon et Anne, Jean le Baptiste et enfin Joseph, le charpentier de Nazareth, à qui Marie, une jeune femme de Nazareth, avait été accordée en mariage, Saint Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Parlons brièvement des femmes dans la Bible. Il est bon que nous regardions la place des femmes dans la Bible à partir de Ève jusqu'à la Vierge Marie. Elles sont des compagnes fidèles, des prophétesses, des prostituées, des reines féroces, combattantes, des mères fécondes ou des femmes stériles, veuves, toute l'humanité féminine est présente dans l'Écriture sainte. À travers Ève, Sarah, Agar, Rachel, Rahab, Déborah, Anne, Judith, Esther et bien d'autres, les écrivains sacrés montrent combien les femmes sont partie prenante de l'histoire bimillénaire d'Israël. Leur disponibilité, leur récompense ou leur initiative changent le cours des événements et tracent le chemin de Dieu dans l'humanité. Présentes dès les origines, dès l'origine, les femmes jouent donc un rôle très important à toutes les étapes de l'Alliance qui lie, qui relie Dieu à son peuple. Marie, c'est une fille d'Israël qui appartient à un peuple particulier, le peuple juif. Comme femme, elle n'avait pas de place exceptionnelle dans la vie sociale ou religieuse de ce peuple. Rien, par exemple, de comparable à la sœur de Moïse, qui s'appelait d'ailleurs Marie, Myriam, et on nous dit que la sœur de Moïse avait joué un rôle important dans la conduite du peuple hébreu. Livre de l'Exode, chapitre 15, verset 20, ou Michée, chapitre 6, verset 4. Marie n'a rien non plus de comparable aux autres prophétesses de l'Ancien Testament, telles Déborah au temps des juges, ni aux héroïnes comme Judith ou comme la reine Esther, qui permirent la délivrance de leur nation et furent ainsi l'instrument de la justice divine. Marie, elle, n'exerce pas de fonction particulière dans le cadre de son peuple. Elle est une femme ordinaire, et son nom d'ailleurs de Marie est assez courant pour d'autres femmes de l'Évangile portant le même nom. Elles sont distinguées par leur relation de parenté ou par leur lieu d'origine. Par exemple, la sœur de Marthe, Marie de Béthanie, la femme de Clopas, ou alors encore Marie de Magdala. La sobriété des récits évangéliques ne suggère-t-elle pas à sa manière la condition finalement toute simple de celle que Charles Péguy évoquera un jour en parlant de Marie? Il dira « Elle était une pauvre juive de Judée, la plus humble des créatures ». C'est comme femme qu'elle doit d'abord être considérée, non pas comme une femme séparée des humains, ni comme un modèle de passive soumission que les autres femmes devraient à leur tour reproduire vis-à-vis des hommes, ni comme le symbole d'une féminité idéale qui impliquerait quelque mépris de la sexualité et de la génération charnelle. Elle est en réalité une femme parmi les femmes, une femme de notre monde, une femme qui, comme beaucoup d'autres, a connu la double condition à la fois d'épouse et de mère. Une femme vers qui nombre de pauvres se sont tournés, cherchant auprès d'elle le réconfort et la consolation. Et c'est pour ça que j'ai pris plaisir à vous lire le joli petit témoignage d'Alain Delon. On a été sensible à la proximité humaine et maternelle de la Vierge. On lui a souvent reconnu, et encore aujourd'hui, un visage de tendresse, de compassion. On s'est souvenu d'elle parmi les joies comme parmi les peines de l'existence. Et aujourd'hui comme hier, beaucoup perçoivent la mère de Jésus comme une femme de chez nous, une créature de Dieu qui a vraiment été au nombre des pauvres d'Israël et dont le visage si humain continue d'habiter la foi et l'espérance des humbles. Que nous dit le Nouveau Testament donc de Marie? Voyons donc sa place dans le christianisme et notamment donc dans les écrits du Nouveau Testament. Pour le Nouveau Testament, Marie, c'est d'abord Marie de Nazareth. Elle fait partie de ce village. Nazareth, à l'époque, était une bourgade perdue au fond d'une lointaine province, la Galilée, à au moins 3 jours de voyage à Dodane de Jérusalem. Et de Nazareth à Jérusalem, à Dodane, il fallait au moins 3 jours de voyage. C'est Jésus qui fait entrer ce village dans l'histoire. C'est là qu'il a grandi, vécu, travaillé durant les 30 premières années de sa vie. Il a fait, Jésus, son apprentissage de charpentier sous le patronage de Joseph. Il y a 2000 ans, Nazareth ne devait pas compter plus de 200 habitants. À flanc de colline, au cœur d'un pays verdoyant, on y vivait de culture. On y cultivait la vigne, l'olivier, l'orge, le blé, les légumes, et puis on y vivait bien sûr d'artisanat. De rares vestiges du 1er siècle en témoignent, dont d'ailleurs une fontaine, on a retrouvé une fontaine, où peut-être Marie, comme ses voisines, allait puiser, bien sûr, de l'eau. Eh bien, c'est à Nazareth, c'est là que le ciel viendra frapper à la porte de la maison de Marie le jour de l'Annonciation. voyez, le bon Dieu n'a pas choisi Jérusalem, ou une ville extraordinaire. Il va choisir un tout petit village de 200 habitants, hein, pour, voilà, le ciel vient frapper à la porte, eh bien, de Nazareth, et notamment de la maison dans laquelle vit Marie. Je dis un mot de suite des lettres de saint Paul. Au fur et à mesure que la communauté chrétienne élabore et formule sa foi, Marie prend une place de plus en plus grande dans les textes du Nouveau Testament. Dans les lettres de saint Paul, qui constituent les premiers écrits du Nouveau Testament, je vous le rappelle, hein, c'est d'abord les lettres de saint Paul qui sont les premiers écrits du Nouveau Testament, Marie occupe une place, on pourrait dire, plus que discrète. Elle n'est jamais nommée. Saint Paul ne prononce pas le nom de Marie. Il mentionne juste, à Galates chapitre 4 verset 4, il mentionne juste que Jésus est né d'une femme. Pleinement homme, Jésus a eu une mère qui lui a donné le jour, l'a élevé, et toute sa vie, Jésus parlera avec l'accent de Galilée, l'accent de Marie et de Joseph. S'il était né à Marseille, je vous donne en mille l'accent qu'il aurait eu. Les quatre évangiles nous rapporte, comme vous le savez, les paroles et les gestes de Jésus, relatant son enseignement, la manière dont il est accueilli ou parfois refusé. Il déploie ses évangiles le mystère de Jésus à travers sa vie, sa mort et sa résurrection. Si les évangiles restent très discrets sur Marie, ils lui donnent une place particulière, car elle est toujours citée en des occasions décisives. Si chaque évangéliste évoque Marie de manière différente, tous quand même insistent sur sa disponibilité à la réalisation du projet de Dieu qui la dépasse entièrement. Ils nous dépeignent tous, voilà, Marie, elle est disponible, elle est accueillante donc au projet que Dieu a pour l'humanité. Disons tout de suite que la voix de Marie ne se fait entendre qu'à 6 reprises. Et elle ne se fait entendre qu'à 6 reprises, Marie, uniquement chez saint Luc et chez saint Jean. La voix de Marie ne se fait entendre qu'à 6 reprises, je vous le répète, donc surtout chez saint Luc, qui est l'évangéliste, on pourrait dire, marial, et puis chez saint Jean. Mais prenons d'abord l'évangile de Marc, donc Marie au fil des évangiles. L'évangile de Marc. Marie est mentionnée pour la première fois dans l'évangile de Marc, mais comme en passant. On ne trouve pas chez lui d'évangile de l'enfance. Marc ne nous dit rien de l'enfance de Jésus. Mais il évoque pourtant la tradition sur la naissance virginale en présentant Jésus comme le charpentier, le fils de Marie, chapitre 6, verset 3. Le fils de Marie, et non comme le fils de Joseph, comme on le voit par contre chez saint Matthieu ou chez saint Luc. Cela constitue un indice ténu, certes, mais il faut bien le reconnaître, qui atteste la croyance du rédacteur, Marc, en la conception virginale de Jésus. Jésus le charpentier, fils de Marie. Lorsque Jésus revient à Nazareth, ses compatriotes s'étonnent et disent « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Marc 6, verset 3. Jésus se heurte à l'incompréhension, voire à l'hostilité de sa famille, qui veut le raisonner et se saisir de lui en disant « Il a perdu la tête ». Marc, chapitre 3, verset 21. Vous vous rappelez cet épisode, hein, où la foule est là tout autour, et donc on dit au Seigneur « Ta mère et tes frères sont là dehors qui t'attendent ». Et il répond « Mais qui est ma mère, qui sont mes frères ?» etc. Et alors on dit « Bon, mais ça y est, il a perdu la tête, il ne reconnaît même plus, il ne sait même plus qui est sa mère, même plus qui est sa famille, etc. » Donc, il a perdu la tête. Vous voyez que le Seigneur n'a pas non plus été épargné par les critiques à son encontre, parfois très sévères. Marie est comme, entre guillemets, prise en otage donc par le groupe familial, mais rien ne permet d'affirmer qu'elle s'oppose à la mission de son fils. Parce qu'elle est là quand même, il a perdu la tête. Mais voilà, et Marie dit oui, oh là là, il a perdu la tête, moi-même, sa propre mère, il ne me reconnaît pas. Non, il n'y a rien de tout ça. Hein. Et donc, elle n'est pas prise en otage par ce groupe familial, et donc elle ne s'oppose pas à l'émission de son fils. Jésus d'ailleurs ressentira un jour cette opposition et l'exprimera hein, avec sa famille ou ses compatriotes. Vous vous rappelez, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et c'est devenu un adage populaire, hein, « Nul n'est prophète en son pays ». Parfois, nous-mêmes, nous pouvons l'expérimenter. Hein. Un prêtre n'est pas forcément prophète pour sa propre famille et ses neveux et nièces qu'il aime bien. Et vous-même, parfois, même avec un conjoint ou avec des enfants, hein, vous avez la foi, vous la pratiquez, vous essayez de la vivre et tout ça, mais vous voyez que, ben oui, ça ne suit pas forcément, ou parfois même, il peut y avoir une forme de, un peu d'hostilité ou autre, mais vous tenez le coup courageusement, hein, mais donc, on n'est pas non plus prophète, hein, dans nos milieux de vie. Vous savez, parfois, quand on demande à un prêtre, moi, comme à d'autres, hein, « Ah, vous avez la vocation et tout ça, mais ah oui, vous êtes d'une famille très chrétienne. Ben, » si vous écoutez les témoignages de tous les prêtres, alléluia, il y en a qui sont issus de familles vraiment très chrétiennes, qui ont baigné dans une atmosphère de foi, d'accueil, de disponibilité. Mais il y a d'autres prêtres qui ont des chemins tout à fait différents. Mais le Seigneur s'est servi par d'autres chemins, eh bien, pour les appeler. La famille, donc il a perdu la tête, la famille devait être une protection et un encouragement, elle est ici une menace. Je peux finalement me mettre à la place de Jésus, car il est arrivé peut-être aussi à ma famille de ne pas comprendre mes engagements. Mais qu'est-ce que tu as besoin toutes les semaines d'aller faire le catéchisme ou d'assurer ce service à l'église ou d'aller à la messe? Alors maintenant, tu es allé le dimanche et maintenant, en plus maintenant, tu as besoin d'aller en semaine, en fait, etc. Voilà. Donc, voyez toutes ces formes aussi et puis tant d'autres. Hein. Mais je dois aussi me mettre à la place de la parenté de Jésus. Par rapport à mes enfants, est-ce que par peur, je ne les ai jamais retenus aussi de suivre leur chemin, par exemple? Bon, voilà, question qui peut se poser. L'évangile de Marc. Donc maintenant, l'évangile de Matthieu. Matthieu, lui, commence par une généalogie qui relie Abraham, il part d'Abraham, à Joseph. Il nous dit Joseph qui prit Marie comme épouse. Donc c'est le premier chapitre de Matthieu, hein, chapitre 1, versets 24 à 25. Cette généalogie de Jésus, vous l'avez sûrement entendu, hein, on la lit, alors on va la lire dans le temps de l'Avent. On la lit aussi normalement le jour où on fête le 8 septembre la nativité de la Vierge Marie. Et défile devant nous alors toute une liste de noms, d'hommes et quelques femmes quand même, mais bon, qui ne nous disent pas grand-chose, à l'exception bien sûr de quelques personnes. Mais Matthieu a voulu vraiment rattacher, vous voyez, la personne du Christ, sa généalogie, bien sûr au premier père dans la foi, hein, nos pères dans la foi, je vous ai dit au début, donc à la personne, à la figure d'Abraham. Matthieu est tout entier préoccupé de prouver la lignée davidique et royale de Jésus. Il est descendant de David, hein, donc il est de cette lignée royale. Et pour ce faire, il assure à Jésus une existence légale par Joseph, charpentier de Nazareth, dans la descendance de David, bien qu'il soit né de Marie seule. Mais par le fait que Joseph prenne cet enfant comme le sien, comme son propre fils, eh bien, il est assuré donc de faire partie de cette descendance royale, de la descendance de David. En plus de Marie, dans cette généalogie de Saint Matthieu, quatre femmes, figurent dans cette généalogie. Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Ur. Les amours de ces femmes n'ont pas été très régulières. Par exemple, Tamar, Rahab et Ruth sont d'origine étrangère. Et donc, dans ma généalogie, Jésus dit, ben, il y a des étrangères. Ah, bon, très bien. Et puis, est-ce que ce serait une manière subtile de montrer finalement que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, selon une formule célèbre, et que Jésus est avant tout un cadeau de Dieu à l'humanité, un cadeau qui avait déjà été annoncé par le prophète Isaïe, chapitre 7, verset 14. Je cite... Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Joseph est le personnage en vue de l'évangile de l'enfance. Guidé par l'ange du Seigneur, évangile de Matthieu toujours, il accueille Marie. Il s'occupe de Jésus enfant et de sa mère. Et c'est dans ce cadre que Matthieu nous présente Jésus. Il est, au chapitre 1, versets 18 à 20, il est le fruit de l'Esprit-Saint, accueilli par Marie, qui ne cohabite pas encore avec Joseph. L'enfant ne naît pas de leur union. Marie est toujours vierge. Cette affirmation de l'Église n'a pas pour but de décrire une réalité gynécologique, mais de comprendre Marie dans le mystère du Christ, dans le mystère. Affirmer que Marie est vierge revient à dire que Jésus, fils de Dieu, n'a pas été conçu par un homme. Dans la généalogie d'ailleurs de Jésus, alors je vous ai cité donc Tamar, Rahab et Ruth, bien sûr, et puis il nous est dit aussi qu'il y a la femme dure, hein, ou d'Our, bon, c'est comme ça plutôt, qui c'est, vous rappelez, le roi David, il tombe amoureux à un moment donné d'une femme qui n'est pas la sienne, Ur, la femme d'Our plutôt, qui est un officier de sa garde. Et donc, comment s'accaparer de cette femme-là? Eh bien, il envoie au premier poste, dans une bataille, l'officier en question qui est tué. Et donc, vous voyez, il va commettre ce péché très grave d'ailleurs. Hein, et qu'il pleurera de toutes les larmes de son corps, hein, et de son cœur, qu'il regrettera. Et ce qui a produit d'ailleurs le magnifique psaume 50, hein, « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, dans ta miséricorde, efface mon péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » etc. Tous les vendredis, dans le bréviaire notamment, et puis en carême, on dit ce magnifique psaume 50, le psaume de la pénitence, et c'est David qui a reconnu sa faute. Donc vous voyez que dans cette généalogie d'où est issu Jésus, hein, il y a du lumineux, mais il y a aussi du ténébreux, ou du glauque, on dirait aujourd'hui peut-être. Maintenant, voici donc Luc. On peut dire que dans l'évangile de Luc, Marie occupe le devant de la scène. L'ange du Seigneur annonce à cette très jeune femme, oui, on dit qu'elle a entre 15 et 20 ans, quand, hein, on ne sait pas l'âge précis bien sûr, mais elle a à peu près entre 15 et 20 ans, et Joseph n'est guère plus âgé. Hein. Malheureusement, la statuaire en a fait parfois quelqu'un de très âgé, hein, mais aujourd'hui le jour, il y a de magnifiques statues de Joseph qui le représentent vraiment, voilà, bon. Jeune et fort et comme il devait l'être. Je vous dis ça parce que c'est vrai que c'est son année à Saint-Joseph qui va se terminer bientôt. On ne peut pas parler aujourd'hui trop de lui, mais bien sûr, là où est Marie, là est Joseph aussi. Donc, c'est une très jeune femme. L'ange lui annonce donc la naissance de cet enfant hors du commun. Pourquoi ? L'ange lui dit, il est le fils du Très-Haut. Un enfant qui aura une qualité qui n'appartient qu'à Dieu. Il sera saint. Cette bonne nouvelle, Marie court l'annoncer dans la maison de Zacharie. Zacharie, le muet du temple. Il n'a pas fait confiance, donc il a perdu. Hein, il n'a pas fait confiance au Seigneur. Hein, et donc, il a perdu pour un temps, en tout cas, l'usage de sa bouche. Dialoguant avec Élisabeth, sa cousine, Marie chante l'action de grâce du Dieu Sauveur en citant abondamment les Écritures. Le Magnificat, c'est pas une création de Marie, mais Marie est tellement imprégnée, on va dire presque imbibée de la parole de Dieu, hein, qu'elle a goûté, qu'elle a médité, qu'elle n'arrête pas de repasser dans son cœur, comme tant d'autres certainement. Hein. Mais donc, sa joie va exulter à travers ce beau chant du Magnificat. Hein, il s'est penché sur son homme servant, désormais tous les âges me diront bienheureuse, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, etc. Donc, elle va annoncer cette bonne nouvelle en chantant ou en citant abondamment les Écritures. Lorsqu'elle donne le jour à Jésus, elle accueille les bergers, puis les mages venus d'Orient. Elle retient tous ces événements en cherchant le sens, ce sens qui ne se dévoilera pleinement qu'à la lumière de Pâques. Marie, il faut ne jamais l'oublier, hein, a cheminé aussi dans la foi, la première en chemin, mais tout n'était pas acquis. Hein, et tout n'était pas reçu à 100%. Vous avez dans certains textes, vous rappelez qu'elle s'est posée aussi des questions, déjà le matin de l'Annonciation. Hein, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Voilà, il n'est pas interdit de se poser des questions. Ou quand elle va retrouver Jésus adolescent qui a fugué, elle va dire, mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Bon. Et la réponse, bien sûr, de l'adolescent, comme ils savent bien répondre, tous les adolescents, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ben oui, j'avais disparu que depuis 3 jours, hein, il ne fallait pas s'inquiéter. Vous imaginez l'angoisse des parents. Hein. Bon, donc voilà. Et il notera d'ailleurs, ils ne comprirent pas, ils, Joseph et Marie. Mais après, l'enfant hein, redescendit avec eux, et il leur était soumis, il continue de grandir en sagesse et en taille. Dans le temple, vous vous rappelez, elle accueille la prophétie du vieillard Siméon. Mais enfin, quand même, prophétie troublante, dramatique, qui lui promet un glaive de douleur à la suite de Jésus, qui sera un signe de contradiction. Elle s'entendra dire que ce tout petit de 40 jours, hein, qu'elle porte dans le temple, 40 jours après sa naissance, ce petit qu'elle presse sur son cœur, qu'elle allaite de son lait, ce petit d'homme, est la lumière qui vient éclairer les nations païennes et est la gloire d'Israël. Il est, voilà, c'est Siméon, hein, quand il prend cet enfant dans les bras, hein, et dit « Maintenant, mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière pour éclairer ton peuple. » Voilà. Celui que l'on attendait, eh bien, il est là. Et moi, Siméon, hein, du haut de mes 90 ans, peut-être, puisque à côté de lui, il y avait la prophétesse Anne, 84 ans, hein, mais donc du haut de mon expérience humaine, eh bien, je tiens maintenant dans mes bras, hein, celui que, depuis des siècles, on attendait, le Messie, il est là. Et puis après, il se tourne vers Marie, hein, et toi, voilà, ton fils sera signe de contradiction, ça va pas bien se passer, finalement, et toi-même, hein, ton cœur sera transpercé, hein, de douleur. Imaginez, si vous allez visiter une maman qui vient d'avoir un tout petit, et que vous alliez lui prophétiser, hein, que, eh bien, cet enfant, voilà, va être en butte à l'hostilité, à la contradiction, etc., etc. Et puis toi-même qui viens de lui donner naissance, eh bien, tu vas pas être épargné. Bon, habituellement, on a des mots plutôt réconfortants, hein, on dit à la maman, bon, félicitations, oh, mais il est magnifique, etc. Bon, voilà, il ressemble à son papa, à sa maman, et bon, à son beau-père, à sa belle-mère, à son grand-père, à sa grand-mère. Voilà. Donc, là aussi, Marie, vous imaginez, elle a dit, ah ben oui, non, ben Siméon, oui, oui, il m'a dit en effet que, oui, oui, le petit, il y aura quelques soucis après plus tard, oui, oui, il va même être un signe de contradiction, oui. Et puis oui, ben moi, il m'a dit aussi qu'une épée, vous voyez, bon, elle a dû se poser, voilà, des questions, et puis partager peut-être ça avec, on n'en sait rien aussi, mais on peut se plaire, hein, Joseph, il a entendu aussi la prophétie, hein. Donc, est-ce qu'ils ont peut-être partagé ça et porté ça en toute confiance une fois de plus vers le Seigneur, on peut l'imaginer. Dans ce même temple, où 40 jours après donc la naissance, elle amène ce petit, 12 ans plus tard, Marie entendra son adolescent de Jésus faire la révélation suprême. « Ne le saviez-vous pas, c'est chez mon Père que je dois être. » Bien que ne saisissant pas le sens de ces paroles qui dépassent toute compréhension humaine, Marie, nous dit Luc, garde tous ces événements dans son cœur. D'ailleurs, à ce propos, moi je ne suis pas un grand spécialiste de l'écriture sainte, mais puisqu'on a changé nos traductions, en fait, la vraie traduction grecque, c'est pas, normalement, dans nos livres maintenant, je crois qu'on dit « Vois comme ton père et moi, nous avons souffert ». Mais la traduction grecque, pour l'avoir lue, hein, je ne fais que répéter ce que j'ai de plus grand spécialiste, en fait, c'est « Vois comme ton père et moi, nous étions à la torture ». Souffert, c'est, ça dit la chose. Hein. Mais voilà, ils ont été vraiment pendant 3 jours, et imaginez-le, hein, déjà vous, quand le gamin paraît au bout de 3 heures, alors qu'on lui avait dit de rentrer à 6 heures, il n'est pas là, on se fait un sang d'encre, et on est, voilà, on est presque à déclencher alerte enlèvement, hein, bon, hein, mais voilà, vois comme ton père et moi, nous étions à la torture de t'avoir perdu, hein, pendant 3 jours. Et lui qui dit, mais non, mais j'étais chez mon père. Et Joseph, qui est quand même, aux yeux de tous, le père, qu'est-ce qu'il a ressenti aussi à ce moment-là? Donc vraiment, c'est l'humanité du Seigneur, et toujours pareil, la disponibilité de Marie et de Joseph. Dans le récit de Luc, Marie est la mère de Jésus, mais également un modèle pour les croyants. Ouverte à l'initiative divine, elle accueille et médite une bonne nouvelle. L'image de la Pentecôte, bien sûr, donne une place prééminente à Marie, plus que ne le rapporte Luc dans les Actes des Apôtres. Je vous rappelle quand même que c'est Saint Luc qui a écrit aussi les Actes des Apôtres. Hein. Marie est comme la face interne, mystique de l'Église. Dans sa course vers la maison de Zacharie et d'Élisabeth, vous savez, quand elle s'empresse à aller voir sa cousine, hein, elle est la figure de l'Église missionnaire. Elle s'en va porter, là, ce que je vous ai dit dans, hein, ce matin dans la méditation aussi. Hein, elle est la figure de cette église missionnaire. Hein. Cet enfant que j'ai en moi, je m'empresse aussi d'aller le porter. Hein. Cet enfant, finalement, ou ce Dieu en qui j'ai foi, moi qui suis père ou mère, ou père ou grand-père ou grand-mère, ou catéchiste, bien sûr, eh bien, ma mission, bien sûr, c'est pas « j'ai, oh, mais moi, j'ai ma foi hein. ». Eh bien, très bien, alléluia et remercie le Seigneur. Mais ta foi, elle n'est pas que pour toi, ensuite, hein, elle est faite aussi pour être partagée, hein, pour être transmise. là où tu peux, comme tu peux, avec toujours pareil, ta vocation dans le monde et dans l'Église. Il n'est donc pas étonnant de voir Marie figurer dans le groupe des disciples qui se prépare à accueillir l'Esprit de Pentecôte. Hein. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. L'Évangile de Jean. La place de Marie est encore renforcée dans l'Évangile de Jean. Alors Marie est présente à deux reprises dans l'Évangile de Jean. Vous rappelez, elle est présente à Cana, aux noces de Cana, et elle est présente bien sûr au pied de la croix. Avant de mourir, le Christ confie Jean, le disciple bien-aimé, à celle qui a dit au serviteur de la noce de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira ». En prenant Marie chez lui, le disciple, donc Jean, mais aussi vous et moi, la reçoit comme mère. Mère du disciple, Marie est la mère de tous les croyants. Marie à Cana, alors ça se trouve dans Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. Les noces de Cana font couler autant d'encre que les centaines de litres d'eau changées en vin. Vous savez qu'il y avait donc ces 6 jarres de chacune 100 litres d'eau, hein, et le miracle va s'accomplir. Alors ces noces, oui, elles font couler autant d'encre que les litres de vin. Catholiques et protestants se sont souvent opposés sur l'interprétation du rôle de Marie. Il est certain que ce n'est pas d'abord un récit sur Marie, les noces de Cana, mais bien sûr sur la personne même de Jésus. Il est le seul personnage d'ailleurs nommé par son nom, Jésus. Tous les autres sont présentés soit dans leur fonction, on nous parle du maître du repas, mais on ne nous dit pas s'il s'appelle Jacques, Paul ou Étienne. Les serviteurs, on n'en sait rien. Le marié, on nous parle du marié, mais on ne nous dit pas non plus le prénom, voyez. Donc ils sont qualifiés donc dans leur fonction, ou soit dans leur relation avec Jésus, sa mère, on nous dit, la mère de Jésus était là, ses disciples ou ses frères. Par ailleurs, Jean n'appelle jamais Marie par son nom. Il dit toujours la mère de Jésus. Il ne dit pas Marie la mère de Jésus, il dit la mère de Jésus. Jésus avait été invité aux noces de Cana, la mère de Jésus ou sa mère était présente. Il ne dit pas que Marie était au pied de la croix, il nous dit la mère de Jésus, Stabat Mater, se tenait debout au pied de la croix. Pour nous recentrer, Jean, toujours, vous voyez qu'il y a aussi une volonté explicite pour nous recentrer, bien sûr, sur la personne de Jésus. Pour pas qu'on aille se dire, ah tiens, ah oui, le marié s'appelait comme ça, ah oui, les disciples et tout ça. Non, vous voyez, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui est aussi au centre des noces de Cana. Pourtant, Marie joue un rôle décisif dans le déclenchement du premier signe de Jésus. Les noces de Cana, hein, Saint Jean, il ne parle pas du mot miracle, il nous dit, mais c'est l'équivalent bien sûr, il nous dit, tel fut le premier signe que Jésus accomplit. Le signe pour montrer que qui il est profondément bien sûr, hein, et que les temps nouveaux sont là, et que les noces de l'agneau, c'est maintenant qu'elles ont lieu, qu'elles vont avoir lieu. Et ce mariage, précisément, cette noce de Cana, annonce la noce ou les noces éternelles qui auront lieu et dont le Seigneur, bien sûr, est l'époux unique. Vous avez vu d'ailleurs que dans la nouvelle traduction du missel romain, au moment de communier, justement, et c'est heureux, autrefois, donc on va dire ça maintenant autrefois, mais il n'y a pas si longtemps, heureux les invités au repas du Seigneur, et maintenant nous disons, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et c'est plus heureux, c'est pas simplement une histoire de changer, mais c'est plus heureux parce que l'Eucharistie, elle est un repas, mais ce n'est pas un repas quelconque, un repas ordinaire, c'est le festin des noces de l'agneau. Même si vous êtes avec un simple prêtre âgé qui commence à trembler de la feuille et se tromper dans le missel et que vous n'êtes que trois dans l'église, vous vivez, et je vis avec vous, nous vivons ensemble, le festin des noces de l'agneau. Si vous êtes à Saint-Pierre de Rome avec le pape, les cardinaux, les évêques, une belle assemblée et la chorale du Vatican qui chante magnifiquement, c'est le festin des noces de l'agneau. Chaque Eucharistie, c'est ce festin des noces de l'agneau qui nous conduit bien sûr un jour, qui nous conduira un jour au terme de notre route humaine au grand festin du royaume. C'est très beau. Et ce grand festin du royaume, Alors, c'est un peu embêtant pour les végétariens et les végans, parce que l'Ancien Testament dit « Le jour viendra où le Seigneur vous recevra sur sa montagne, il dressera pour vous ce festin de viande grasse et de vin capiteux. » Mais bon, je pense qu'ils tiendront compte des sensibilités végétariennes et autres. Non, c'est une manière de parler. Hein. Mais nous savons bien que celui qui apaisera notre faim d'une manière définitive, hein, c'est celui déjà que nous recevons en chacune de nos eucharisties, sous le voile de l'hostie. Et nous reconnaissons la présence vivante et vivifiante, et je dirais, excusez-moi entre guillemets, mais et la présence nourrissante du Seigneur. Donc voilà, chaque fois que je vais à la messe, je suis donc déjà au festin des noces de l'agneau, que le mariage de Cana, et bien sûr, préfigure. À ces noces, sous un mode familier à Jean, Marie introduit sa demande sous forme d'une affirmation. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Le dialogue entre Jésus et sa mère est très bref, mais profond, au point de rester un peu énigmatique d'ailleurs. Jésus lui répond par une expression fréquente dans la langue hébraïque. Nos traductions disent « Mais femme, que me veux-tu ? Que me veux-tu ?» Alors la forme, c'est une expression assez fréquente. C'était en fait « Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Dans la Bible, l'expression marque toujours un désaccord entre deux personnages. Voyez, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Quelqu'un qui voudrait intervenir indûment dans les affaires d'un autre comprend finalement dans cette réponse ce que nous on dirait d'une manière un peu plus cavalière, mais de quoi te mêles-tu ? C'est presque ça, hein ? De quoi te mêles-tu ? Vous trouvez ça dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 16, verset 10. Ou bien quelqu'un sollicité d'intervenir. On demande à quelqu'un, mais vas-y, interviens. Et qui, pour se mettre à distance, va répondre quoi ? Allez, mais vas-y, mais allez, va, fais, dis-lui ça et tout ça. Ce n'est pas mon problème. Je prends une distance. Voyez ? Je prends une distance. Le deuxième livre des Rois, chapitre 3, verset 13. Il est donc clair qu'aux noces de Cana, il y a de la part de Jésus une certaine distance par rapport à sa mère. Voyez ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Bon, il ne lui dit pas, mais maman, de quoi te mêles-tu ? Non, il ne dit pas ça comme ça. Hein. Mais, vous voyez, ou alors, ils n'ont plus de vin. Et Jésus, vous imaginez, qui dit, mais ben oui, mais c'est pas mon problème. Hein. Je ne suis pas chargé de l'intendance, hein, moi. Je ne suis pas le... Hein, il faut aller voir le traiteur, hein, qui a pas prévu assez de vin et de petits fours. Non. Hein. Mais voilà, il y a une certaine distance. Mais il n'est pas nécessaire d'imaginer... Comme Saint Jean Chrysostome. Vous voyez que dans l'Église, depuis 2000 ans, on scrute la parole de Dieu. Et les pères de l'Église, hein, Chrysostome, Augustin, Athanase, enfin tout ce que vous voudrez, vous en connaissez peut-être quelques-uns, ben, ils se sont penchés sur la question. Et alors ils réfléchissent, et alors ils disent « Ah, mais moi je pense que peut-être que c'est sous cet aspect-là qu'on pourrait comprendre des choses, moi sur l'autre. » Et donc Saint Jean Chrysostome, lui, voilà, il n'est pas nécessaire d'imaginer, comme lui, une réprimande de Jésus à sa mère, qui aurait été trop préoccupée par la réussite de son fils. Vous voyez, c'est un Jean Chrysostome. Hein. Il se dit, mais peut-être qu'il a réprimande, parce que peut-être que Marie voulait peut-être mettre davantage en avant un peu son fils, voilà, comme une bonne maman, quoi, qui parfois, bon, ben voilà, on souhaite le meilleur pour ses enfants, et qu'ils soient un peu plus, voilà, mis enfin, en valeur, entre guillemets. Donc Jésus invite sa mère à faire un pas, en fait, vous voyez. Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Il l'invite à faire un pas. Elle a beau être sa mère... Il lui faut renoncer à son autorité sur son fils, car l'heure de Jésus ne peut pas dépendre d'elle, pas plus que de personne d'autre, mais du Père du Ciel. Nul ne connaît l'heure, ni le jour. Seul le Père du Ciel connaît, la connaît. Donc c'est pas à Marie, si vous voulez, là je ne fais que déployer l'évangile, hein, mais ce n'est pas à Marie d'anticiper l'heure, voyez. Mon heure n'est pas encore venue, elle viendra. Mon heure, mais c'est peut-être pas encore le moment. Voilà, ce qui justifie ce petit dialogue, hein, mais qui n'est pas, bon, comme dit Chrysostome, une réprimande, certainement pas. Jésus l'appelle femme. Femme, que me veux-tu ? Il lui dit pas, oui maman, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, hein, voyez, femme, que me veux-tu ? Un titre qu'un fils ne donne jamais à sa mère. Imaginez votre enfant tout à l'heure qui dit « Femme, est-ce que tu m'as fait mon repassage, mon linge ?» Bon, je pense que vous recadreriez hein, le fils ou la fille hein, qui s'adresserait ainsi à vous, ou même votre conjoint, bien sûr. Hein. et après vous allez avoir des ennuis avec les féministes en plus. Bon, hein. Donc il est à noter donc que il utilisera ce même terme de femme au calvaire. Femme, voici ton fils. Fils, voilà ta mère. Cela signifie pas un mépris. Quand il lui dit femme, cela signifie que Jésus ne lui parle plus comme un fils. Ici commence sa mission, où il n'y a plus, je vous l'ai cité tout à l'heure pour Marc, ici commence sa mission où il n'y a plus ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, Saint Paul dira ni juif, ni païen, hein. Il y a seulement des disciples. Voilà. Et Marie aux noces de Cana, bon, elle est la mère, bien sûr, mais elle est aussi la disciple. La mère de Jésus entend bien cette invitation à devenir disciple. Et c'est le sens de sa réponse d'une totale confiance. Qu'est-ce qu'elle va dire au serviteur? Elle dit pas, oh là là, non, ça a bardé, hein. Mon fils m'a recadré et il m'a dit, c'est pas à nous de nous mêler de cette histoire, etc. Hein, pour le vin, hein, qui manque et patati patata. Il n'y a rien de tout ça. Elle se resitue là, plus en tant que mère, mais en tant que disciple. Quoi qu'il vous dira, faites-le. Donc elle-même, elle situe que son fils, c'est aussi le maître. On obéit à un maître habituellement. Hein. Bon, il y a quelques problèmes hein, maintenant dans le domaine de l'éducation, malheureusement, mais hein, le maître, parce que c'est celui qui sait et dont on a à apprendre. Hein. C'est celui qui indique, hein, dont on va suivre aussi l'indication hein, dans cet état d'esprit. Donc, vous voyez que Marie, donc, quand il lui dit femme, il la situe ou elle va se situer après en tant que disciple. Quoi qu'il vous dise, faites-le. À Cana, Marie devient ainsi la figure du véritable Israël qui, au pied du Sinaï, répondait à Moïse. Qu'est-ce qu'il disait? Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, nous l'entendrons. Exode, chapitre 24, verset 7. Alors le peuple, hein, voilà, faisait toutes les promesses. Hein, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, nous l'entendrons. Bon, seulement après, dès que Moïse a tourné les talons, hein, on fabrique de suite un veau d'or et compagnie. Hein. Bon, parole, promesse, hein, voilà. Bon, les hommes politiques, souvent, ils disent « Ce que j'ai dit, je le ferai ». C'est formidable, quand même, hein. Et on leur fait confiance, hein. Voilà. Après, ils font parfois un peu beaucoup passionnément ou pas du tout, comme dirait l'autre, en effeuillant la marguerite. Bon, mais enfin, il faut prier pour les gouvernants, quels qu'ils soient, c'est Saint Paul qui le dit. « Quoi qu'ils vous disent, faites-le ». Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, disait le peuple, à moins qu'il s'agisse d'une allusion à Joseph, qui va nourrir les Égyptiens affamés. Vous rappelez, c'est l'Ancien Testament, je ne vous parle pas de Joseph le charpentier, hein, mais de l'autre Joseph de l'Ancien Testament. Allez à Joseph, et quoi qu'il vous dise, faites-le. Genèse 41, verset 55. Et ce Joseph-là va nourrir les Égyptiens affamés. Ainsi, l'intervention de la mère de Jésus est essentielle. À Cana. Grâce à elle, les serviteurs deviennent témoins et ministres privilégiés du premier signe. Ministres, pourquoi? Parce que c'est ministres et serviteurs, ça veut dire aussi. Hein, et parce que, voilà, ils vont remplir les jarres, hein, vides de l'eau, etc. Donc ils agissent. Hein, et donc mais ils vont être aussi les témoins. Grâce à cette femme, que me veux-tu? Grâce à cette femme, cette mère, les disciples voient la gloire de Dieu et croient en Jésus. Hein. Tel fut le premier signe hein, de Jésus à Cana. Hein, ses disciples croirent en lui. Marie au calvaire, toujours chez Saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Le signe de Cana préfigure la scène du calvaire, les noces, quand l'heure est accomplie. Seul reste autour de Jésus, vous vous rappelez donc les fidèles, des femmes, dont la mère de Jésus, et Jean, le disciple qu'il aimait. Dans cette scène, comme dans tout le récit de la Passion en Jean, Jésus est dépeint sous les traits du Seigneur qui dirige les événements et leur donne signification. Jésus est toujours, même dans sa passion, il est le maître. C'est lui qui dirige les événements, ce n'est pas les événements qui le dirigent. Gardant l'initiative, il donne aux deux personnages une mission. La formule « voyant sa mère », voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, rappelle en effet les formules de mission employées lors du choix des premiers disciples. voyant au bord de l'eau les apôtres et ça, il leur dit, venez et suivez-moi, voilà. Toujours l'initiative de Jésus. Femme, toujours pareil, vous voyez, chez Saint Jean, femme, voilà ton fils. Jésus parle non en fils lui-même, mais en Seigneur. Il dispose de sa mère. Le parallèle avec Cana est évident. Ce sont les deux seules scènes où intervient la mère de Jésus. Elle est de nouveau appelée femme et l'heure est désormais venue. À partir de cette heure-là, nous dit Saint Jean, le disciple l'a pris chez lui. À partir de cette heure-là. C'est une expression typique à Jean aussi. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Cette scène doit avoir un sens symbolique. Le disciple devient fils de Marie. Et s'il devient fils de Marie, il devient quoi ? Frère de Jésus. Marie, qui adopte le disciple, elle le prend pour son propre fils, représente le peuple nouveau qui naît sur la croix. En accueillant Jean, elle accueille tous les frères de Jésus. Je dis frères dans le sens large, hein, vous me traduirez frères et sœurs. Hein. Je ne vais pas rentrer toujours dans cette mode maintenant de... Excusez-moi, hein, mais on n'en finit plus. Elle accueille tous les frères et sœurs de Jésus qui l'accompagnent comme disciples jusque-là. Elle est la disciple par excellence, celle qui forme l'embryon de la communauté naissante. L'image des douleurs de l'enfantement que Jésus avait employée pour préparer ses disciples à sa passion s'applique exactement à sa propre mère. Vous vous rappelez Jésus qui disait « Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction puisque son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à son enfant, elle ne se souvient plus de son accablement. Elle est toute à la joie d'avoir mis au monde un homme. » Chapitre 16, verset 21. Et la même image revient d'ailleurs dans la vision de l'Apocalypse. Elle symbolise le peuple de Dieu qui enfante son Messie au milieu des douleurs. Tous les disciples sont le reste de ses enfants, ceux qui gardent le commandement de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus au livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Je dirais que Marie, c'est la femme qui dit non. Elle dit non. Si Marie est la femme du oui, elle est la femme du oui, c'est parce qu'elle est aussi la femme du non. Elle a dit non à tous ceux qui ne touchaient pas à la volonté de Dieu. Elle a dit non à tous ceux qui n'entraient pas dans le plan de Dieu. En réalisant qu'elle avait été choisie pour être la mère de Dieu, elle n'a rien demandé en échange, ni trouvé aucune excuse pour y échapper. Elle a simplement accepté. Elle a dit non à la vanité. N'importe quelle femme de son époque aurait pu rêver d'être la mère du Messie. Lorsqu'elle fut choisie, Marie a gardé les pieds sur terre. Elle ne s'est pas sentie supérieure aux autres. Elle s'est reconnue, vous le savez, en tant que simple servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. Elle a dit non au commérage. Elle ne s'est pas vantée aux yeux de tout le monde de sa mission et de son bébé. Elle ne l'a d'ailleurs même pas dit à Joseph, pas même pour se protéger. Elle a dit non à l'égocentrisme. Tout de suite après l'Annonciation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met en route rapidement, nous disent les textes, ou avec empressement, une autre traduction, pour aider sa cousine Élisabeth, en attente d'un enfant qu'avec Zacharie, Élisabeth elle-même n'attendait plus. Elle a dit non à tout traitement de faveur. Elle a vécu la condition humaine comme tout un chacun, avec ses joies, les peines, les fardeaux de la vie. Elle a refusé de s'attarder sur les « et si ». Et si ça s'était passé comme ça, et si j'avais été ceci, et si j'avais su, etc. Non, elle n'a pas vécu avec tout cela. Lorsqu'elle a dû donner naissance dans des conditions bien différentes de ce que elle et Joseph avaient prévu, Marie n'a pas perdu de temps à refaire le monde avec des « si ». Elle s'est adaptée à la décision de Dieu. Elle a enduré ce qu'il pouvait y avoir de pénible à supporter dans sa condition. Elle a refusé de vivre dans une bulle. Elle aurait pu, après tout, se couper du monde avec Joseph et son enfant, Jésus, profiter des plaisirs d'une compagnie si honorable. Au lieu de cela, elle a, dès le début, donné son enfant aux autres. Elle l'a donné aux bergers, aux mages venus d'Orient, et plus tard au monde entier. Il y a un chant d'ailleurs que l'on chante, ou un peu moins, mais « Vierge bénie entre toutes les femmes, donne-nous ton fils, donne-nous ton fils. » Voilà, parce qu'on sait que si on le lui demande, eh bien, elle nous le donnera. Elle a dit non à la tentation de s'opposer à la décision de Dieu. Elle a accepté le glaive des douleurs, prophétisée par Siméon au temple de Jérusalem. Elle a dit non au sentiment de répulsion qu'elle a pu ressentir en devenant notre mère à tous. Il faut se rappeler, elle est sur le Golgotha. Et sur le Golgotha, ce sont nos péchés qui ont crucifié Jésus, qui ont tué son fils. Loin de nous en vouloir, elle nous accepte comme ses enfants. Elle a dit toujours non à tout manque d'amour ou de prière envers nous. Marie n'a nourri aucun ressentiment envers les disciples qui ont abandonné Jésus. Quand elle va voir que, ou entendre, hein, mais on ne le connaît pas, et Pierre et Judas, etc. Et Pierre qui dit, mais non, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu cet homme, par trois reprises. Elle aurait pu éprouver aussi, voilà, une sorte de ressentiment, hein, la traîtrise vraiment des proches, des intimes du Seigneur, et tous les autres d'ailleurs qui fuient aussi. Après l'ascension, elle est restée avec cette bande de lâches. Elle a consacré son temps à les soutenir de sa prière, Pentecôte. On ne peut qu'imaginer la joie de Marie en voyant les disciples touchés par le Saint-Esprit le matin de Pentecôte. Et depuis qu'elle a été appelée au paradis, son Assomption, elle continue de jouer son rôle. Elle s'inquiète de nos besoins, de nos difficultés. Elle passe son ciel à faire du bien, à prier pour nous, à faire du bien sur la terre. C'est pour cela que je vous citais en début donc la parole du Père Sestac. Pensez-vous souvent à notre bonne mère du ciel. Vous avez dans le ciel une mère qui vous aime. Y pensez-vous, l'aimez-vous. Il faut aimer Jésus comme l'aimait Marie. Il faut aimer Marie comme l'aimait Jésus. Pour terminer notre rencontre, je vais vous partager cette histoire, puisqu'on arrive à la période de Noël. Il était une fois un petit garçon, adorable, mais assez turbulent, qui, pour Noël, avait demandé à son papa un vélo. Le papa lui dit, écoute, écris une lettre à Jésus pour expliquer pourquoi tu mériterais un vélo à Noël. Alors l'enfant s'exécute et il commence sa lettre. Mon cher Jésus, puisque j'ai toujours rangé la chambre sans rouspéter, comme maman me le demandait, puisque j'ai toujours aidé à mettre le couvert puis à débarrasser la table, puisque j'ai prêté mon gros camion à mon petit frère et que je n'ai jamais tiré les cheveux à ma sœur, puisque... Non, ça fait trop de mensonges, pense l'enfant. Il prend le papier et le met à la poubelle. Sur une nouvelle feuille, il écrit une autre lettre. « Mon cher Jésus, je te promets pour l'année prochaine de toujours ranger ma chambre, de mettre le couvert, de débarrasser la table quand maman me le demandera, je prêterai aussi mon gros camion à mon petit frère, et surtout je ne tirerai plus les cheveux de ma petite sœur. Je te promets aussi... Oh, mais il se ravise une nouvelle fois. Non, ça fait quand même trop tout ça. » Il prend la lettre de nouveau et la met à la poubelle. Puis, il prend son manteau, s'en va à l'église paroissiale, regarde si on ne l'observe pas une fois qu'il est dans l'église. Il va dans une petite chapelle où il y a une magnifique petite statue de la Vierge Marie. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Il prend la statue de Marie, la cache sous son manteau, rentre chez lui, monte dans sa chambre, ferme la porte à clé, sort la statue de Marie, la met sous son lit, arrange le lit, et puis se remet à son petit bureau où il écrit une troisième lettre. « Mon cher Jésus, si un jour tu désires revoir ta mère... » Alors il y a une chose que cet enfant finalement avait comprise et une autre d'ailleurs qu'il n'avait pas comprise. Il avait d'abord compris que Marie, bien sûr, a un certain effet sur le cœur de Jésus, sur le cœur de son fils. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il y a une autre manière quand même de prendre Marie chez soi. On n'a pas besoin de la kidnapper. Et cette autre manière, c'est de l'accueillir comme Jésus nous l'a demandé du haut de la croix. Vous rappelez ce que Saint Jean nous rapporte, je vous le relis. Près de la croix, Jésus, voyant sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors je vous souhaite, et moi avec vous, eh bien que les portes de notre cœur vraiment s'ouvrent une fois de plus pour recevoir cette mère que Jésus n'en finit pas de nous donner. Elle est une véritable montagne de tendresse, disait le pape François, une montagne de tendresse. Et je vous souhaite donc une belle fête de Noël. Et puis je voudrais terminer eh bien par une prière que j'ai remaniée, mais qui est écrite par une femme. Mais je l'ai un peu remaniée à ma manière aussi. Vierge Marie, On parle de toi comme d'une reine, d'une femme parfois presque inaccessible, tout au moins difficile à imiter. Mais moi, je ne veux voir en toi que la maman. Une maman qui, comme toutes les mamans de la terre, a porté son petit enfant pendant 9 mois, l'a mis au monde, l'a nourri de son lait, l'a langé, a veillé sur lui et a craint pour lui quand, comme tous les enfants du monde, il souffrait des divers maux de l'enfance. Comme toutes les mamans du monde, tu as dû bien souvent te réveiller en sursaut dans la nuit en l'entendant t'appeler. Comme toutes les mamans du monde, tu as vu ton fils grandir, s'épanouir et devenir ce beau jeune homme dont Joseph et toi étiez si fiers. Tu as été l'initiatrice de son premier miracle. Tu as vu son succès fulgurant auprès des foules qui le suivaient. Foule faite de disciples, mais aussi et surtout de malades qui espéraient de lui la guérison. Tu as senti aussi la haine qui s'accumulait autour de lui. Tu as eu peur pour lui. Tu as pleuré quand on l'a arrêté. Tu as souffert quand on l'a crucifié. Tu étais au pied de la croix quand il expira. Je sais que tu partages les soucis des pères et mères de notre époque qui sont déroutés par ce monde hostile qui entoure leurs enfants. Préserve-les des 1000 maux de notre société moderne et sois leur refuge. Veille sur toutes les mamans et les papas du monde et sois à leur côté quand la vie les accable, quand la souffrance les fait pleurer. Rends-leur le sourire et mets la paix dans leur foyer. Toi qui as le soleil pour manteau, défends-nous et défends les fils et les filles de cette terre contre la mort de l'âme. Marie, comme le dit le pape François, tu n'as pas besoin, mère, de beaucoup de paroles. Tu n'as pas besoin que nous fassions trop d'efforts pour t'expliquer ce qui nous arrive ou ce qui nous est nécessaire pour vivre, croire, espérer et aimer. Nous qui sommes tes fils et tes filles depuis la croix du Golgotha. Il suffit de chuchoter encore et encore. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
La Vierge Marie, au fil de l'Évangile, vous venez de suivre un enseignement de l'abbé Jean-Bernard Rayette, délégué épiscopal à la catéchèse, un enseignement enregistré lors d'une formation proposée aux catéchistes le 30 novembre 2021 à Salis de Béarn.